son théorème de droit canon, et ce que Louis XIII a s'engagé sur les traces d'Henri VIII d'Angleterre. On a toujours cette crainte. Le 16 juin, l'Assemblée entrait à peine en discussion de ses affaires que deux commissaires du roi lui soumettent la question sur laquelle Louis XIII, qui est le seul lieu, bien sûr, sollicitait son avis. Si les mariages des princes du sang qui peuvent prétendre à la succession de la couronne, et particulièrement de ceux qui sont les plus proches et présomptifs héritiers, peuvent être valables et légitimes s'ils sont faits, non seulement sans le consentement de celui qui possède la couronne, mais en outre contre sa volonté et de force. Une commission constituée, consulta. Et alors la commission, pas toujours comme d'habitude, c'était autant d'évêques et d'abbés, consulte des théologiens de Paris. Il m'envoie demander à une quinzaine de couvents, les dominicains, les capucins, les franciscains, jésuites, oratoriens, augustins, etc. Et puis, bien entendu, les docteurs de la Sorbonne. Tous répondent dans le sens désiré, mais de façon plus ou moins catégorique, et plusieurs soumettent expressément leurs décisions au jugement du Saint-Siège. Alors, appuyé sur ces avis, le 6 juillet, l'évêque de Montpellier présenta le rapport de la commission. Son discours, qui dura 2 heures, concluait à la nullité, en appuyant du pouvoir de la coutume en matière de droit matrimonial. Alors il invoquait une coutume de France qui rendait nul les mariages des princes du sang conclus sans le consentement du souverain. En droit, il avait... C'est juste, il faut que la coutume est décisive en matière de législation matrimoniale. La difficulté, c'est plutôt historique de trouver des antécédents. Il reconnaît qu'il n'y en a pas beaucoup, n'est-ce pas? Seulement, il dit les historiens n'ont pas rapporté ce cas qui mettait en jeu la succession à la couronne. Enfin, il en avait trouvé 2 ou 3 cas. Et l'Assemblée en discuta dans la séance du lendemain, soumit son texte à Richelieu, qui l'aurait corrigé pour le rendre plus acceptable à Rome. Et la réponse fut signée le 10 juillet par tous les députés du premier et du second ordre. Que la coutume de France ne permet pas que les princes du sang, et particulièrement les plus proches, et qui sont héritiers présomptifs de la couronne, se marient sans le consentement du roi, beaucoup moins contre sa volonté et sa défense, que de tels mariages ainsi faits sont illégitimes, invalides et nuls, par le défaut d'une condition sans laquelle les dix princes ne sont pas capables de légitimement et valablement contracter, et que cette coutume de France est raisonnable, ancienne, affermie par une légitime prescription et autorisée de l'Église. Et Richelieu a voulu que l'Assemblée elle-même envoie son propre ambassadeur pour présenter son texte au pape. Et si bien qu'en conséquence, le 21 janvier 1636, l'évêque de Montpellier a expliqué au pape Urbain VIII la coutume de France qui rendait nul les mariages des princes du sang non autorisés par le roi. Urbain VIII demande un mémoire, Fenouillet, c'est le nom de l'évêque de Montpellier, n'est-ce pas, le réclame à Paris, il réclame des instructions qui n'arrivent pas, finalement l'affaire traîne, et puis va naître un dauphin, si bien que la question a beaucoup moins d'intérêt, et cet épisode qui opposait la doctrine tridentine et les conceptions des parlements de France sur les mariages éclaire finalement les intentions de Richelieu dans ses rapports avec Rome. Vous savez qu'on a un certain nombre des historiens modernes, en s'appuyant sur les mémoires de Montchal, archevêque de Toulouse, qui était cette assemblée. Seulement, on oublie de dire dans ses mémoires qu'il a voulu signer le premier la déclaration du clergé. Bon, il ne s'en est pas souvenu quand il a écrit ses mémoires. Elle a été reprise en disant que Richelieu avait l'intention de séparer la France de Rome pour devenir patriarche des Gaules. Et le cas du mariage lorrain aurait pu constituer une excellente occasion. Il a en réalité conduit toute l'affaire en évitant un affrontement avec le pape Urbain VIII. Il y a en même temps d'ailleurs une discussion sur les rapports entre réguliers et réguliens qui ont des privilèges pontificaux et les évêques. L'Assemblée du clergé veut limiter les privilèges des réguliers Là encore, c'était facile d'exciter l'Assemblée contre Rome. En réalité, Richelieu a évité un affrontement avec le pape. Bien au contraire, que Richelieu ait parfois envisagé, à l'exemple de Georges d'Amboise et de Duprat, une négation permanente en France, à son profit, ça paraît vraisemblable à un certain moment, il y pense en tout cas. Mais une négation, c'est justement le contraire d'un patriarcat autonome. La même assemblée du clergé de 1635, puis la suivante, de 1641, ont eu aussi des démêlés avec le cardinal ministre, cette fois autour de la question du subside à voter pour la guerre soutenue contre les Habsbourg. Louis XIII et Richelieu ont eu beaucoup plus mal à obtenir le vote d'un don gratuit un peu consistant que pour avoir l'avis favorable à la nullité du mariage de monsieur. Et en 1641, Richelieu a eu la main lourde. Les deux présidents et les quatre autres évêques qui avaient refusé de signer le procès verbal, d'ailleurs qui était celui de la majorité qui accordait un don gratuit de 5,5 millions, furent renvoyés dans leur diocèse par lettre de cachet. Pour y faire dans leur diocèse aussi bien leur devoir qu'ils s'étaient mal conduits en cette assemblée, la lettre qui pourrait bien être de la main de Richelieu. Richelieu a pourtant dédommagé le clergé. C'est la Cour des comptes a dû enregistrer du très exprès commandement du roi une déclaration par laquelle le roi faisait don au nouvel évêque qui prenait possession d'un siège des revenus du siège vacant. Alors que, ce qui a facilité d'ailleurs l'acceptation de la régale en 1673. Pour compléter l'étude de l'homme et du prélat, M. Mounier ne pouvait passer sous silence ses écrits. Les écrits qu'il a laissés sont traités de la perfection du chrétien, qui est plus ascétique que mystique, à vrai dire, mais toujours dans la ligne de la spiritualité, on peut dire, ignatienne et salésienne. Et son traité de théologie, publié après sa mort, par l'évêque de Chartres, enfin, un traité qui contient la méthode la plus facile et la plus assurée pour convertir ceux qui se sont séparés de l'Église. Cet ouvrage achève le portrait du cardinal de Richelieu, souvent défiguré par des auteurs qui ne voient que l'homme d'État, et oubliant le chrétien et l'évêque. Pour convertir les protestants, Richelieu entend distinguer soigneusement ce qui est la doctrine catholique, ce qui est le dogme et ce qui est opinion théologique. Alors il ne faut pas imposer aux protestants ce qui n'est qu'une opinion théologique. Par exemple, le lieu du purgatoire, par exemple, certains qui le plaçaient à ce moment-là au centre de la terre, ben, ça, ce n'était pas un dogme, ça n'a jamais été. Et Richelieu le distingue très bien, n'est-ce pas, il le dit expressément. Et ça, dans tout le traité, n'est-ce pas, il apparaît comme un théologien très sûr. Et M. Mounier semble plus en harmonie avec le Richelieu de ce traité et qui contient donc pour convertir ceux qui se sont séparés de l'Église qu'avec le traité de Genève contre les quatre ministres de Charenton. Il faut tout le temps d'arriver à la conclusion. Alors, je laisse un peu les institutions, il y aurait encore beaucoup de choses à dire. M. Mounier a donné des précisions, d'ailleurs très utiles, par exemple une chose très importante dans la distinction entre celui qui nomme un bénéfice et celui qui en fait la collation. Je ne crois qu'il insiste spécialement là-dessus, mais enfin, il donne des idées très, très nettes sur les institutions ecclésiastiques en France. Il donne aussi une vue très nette aussi seulement de ces assemblées du clergé dans lesquelles nous avons vu Richelieu intervenir. Et vous voyez là, j'ai suivi l'ordre chronologique, non pas encore une fois de l'œuvre de M. Mounier, mais des idées et des institutions, des événements auxquels donc, il a fait l'histoire. On aurait pu procéder autrement, mettre au centre du discours l'ouvrage des institutions, avec ce qu'il appelle l'ordre catholique, avec sa hiérarchie, son clergé, ses assemblées, et il lui opposait l'ordre protestant, structuré par l'édit de Nantes. Alors un regard en arrière avec Henri IV, nous aurait montré ces deux ordres face à face, l'ordre catholique avec ses divisés, mais aussi avec ses théologiens et les conceptions romaines sur le pouvoir du pape, de déposer les rois tyrans ou hérétiques, et les conceptions régalistes qui refusent des décrets du Concile de Trente, et de l'autre côté, l'ordre protestant structuré par l'édit de Nantes, que ensuite il montre comment ensuite Louis XIII et Louis XIV se sont appliqués à démolir cet ordre protestant. Et par manière de conclusion, dans l'œuvre de M. Mounier, arrive Richelieu, cardinal de la Sainte Église romaine et principal ministre du roi très chrétien, réalisant le vœu du clergé de France de voir l'un de ses grands dignitaires dans les conseils du roi. Eh bien, si bien depuis des alliances protestantes, d'ailleurs avec le clergé de France qui défend de mieux, le cardinal ministre incarne en sa personne ce que le cardinal neveu d'Urbain VIII appelait la chrétienté catholique. Et je pense que c'est pourquoi M. Mounier lui a consacré ses dernières forces.
Je vous remercie, mon père. Qui veut intervenir sur cet exposé très riche participations de Roland Mounier à l'histoire religieuse du XVIIe siècle? L'absence de questions prouve que tout le monde a été comblé. Je me lance par conséquent. Non, François Fouzet. Je vous remercie. Pierre Chaunu, mademoiselle Storez, après. Je vous remercie, mademoiselle Storez.
Le concile a repris la condamnation. La Sorbonne a d'abord condamné le traité du tyrannicide de Jean Petit, qui en faisait l'apologie, et le concile a repris le décret de la Sorbonne. Il a fait sien pour lui donner l'autorité d'un concile, ce que n'avait pas évidemment la sainte. Remarquez, il y avait tout de même. Il y avait eu des théologiens, hein. Non, enfin là c'était une apologie qui en avait traité au cours de leur œuvre. Tandis que là, ça avait été un traité explicitement, justement, à l'occasion d'un fait précis, donc c'était beaucoup plus. Ça mordait beaucoup plus.
Oui, autre question? Il me reste à vous remercier, mon père.
J'avais accepté l'invitation de quelqu'un de me conduire en voiture et évidemment, il est tombé en panne sur l'autoroute. Vous ne croyez pas une mauvaise volonté de ma part?
Je ne présente pas, ou très rapidement, Jean-Paul Le Flemme. qui est maître de conférence à l'Université de Paris 4, qui est bien connu par ses travaux sur l'Espagne et sur l'histoire militaire. Et il va nous parler de Roland Mounier et de l'histoire coloniale moderne. Cela nous rappelle à certains d'entre nous, d'ailleurs, les cours d'agrégation dont je parlais en commençant, n'est-ce pas, et dont il va certainement aborder un certain nombre de points. Je lui laisse tout de suite la parole.
Monsieur le Président, Monsieur le Recteur de l'Institut, Messieurs les Professeurs, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs et chers amis, j'ai été profondément touché de l'invitation qui m'a été faite pour témoigner sur Roland Mounier. Et surtout de me trouver ici à côté d'un celui qui fut son plus proche collaborateur, le recteur Durand, face au prêtre qui a accompagné ces derniers moments, l'abbé Laurence. Et si vous voulez, moi j'ai été simplement un mauvais disciple de Roland Mounier. Je l'ai accompagné, je dirais, jour et nuit en 68, quand la Sorbonne vivait certains événements. J'ai fait sa connaissance, si vous voulez, par écrit, grâce à ce fascicule qui est arrivé dans mon université provinciale de Caen en 58, quand je préparais la grève. À cette époque-là, la mode en histoire était tout autre. Et je dois dire que, évidemment, les annales, et les annales qui étaient du reste bonnes, à cette époque-là, il y a un certain nombre d'articles dont je me souviens, là, les querelles sur l'année agricole et l'année civile, en particulier le pèlerinage, et on ne parlait pas beaucoup de Roland Mounier. Et évidemment, comme je suis fils de militaire, militairement qui est moi-même, et que j'ai vécu avec la hantise, si vous voulez, de nos colonies, dans l'angoisse de nos colonies, surtout quand on les a perdues, j'ai été intéressé par ce titre, Les étrangers hors d'Europe au XVIe ou XVIIe siècle. Et si vous voulez, je pourrais mettre comme sous-titre à cette conférence Les étrangers hors d'Europe, ou l'art de faire un cours d'agrégation. En effet, Roland Mounier, lorsqu'il a fait ce cours sur les étrangers hors d'Europe, avec bien quelques lumières, mais disons que ce n'était pas sa spécialité. Sa spécialité, c'était les institutions, les problèmes du pouvoir. Mais, si vous voulez, il va donner une chose à montrer à travers ce cours, toute sa culture, toute son acuité et toute son originalité. Particulier, faire un cours d'une heure par semaine aux agrégatifs, qui doit être dense, il avait, je crois, 23 leçons par an, il l'a prononcé la première partie dans l'année universitaire 56-57, et la seconde partie dans l'année universitaire 57-58, Donc, il fallait à la fois qu'il fasse preuve d'esprit d'analyse et d'esprit de synthèse. Et je crois qu'il a montré des qualités dans ces deux parties. Faut-il rappeler quand même quelle était l'atmosphère au point de vue du phénomène colonial en ces années 56, 57, 58. Et j'en ai parlé avec le maître à peine, notamment lors des nuits de Sorbonne. Et il m'a dit qu'il avait fait, vous savez qu'il était un peu lapidaire, le maître. Mais ce qui ne m'empêchait pas d'avoir des pensées sur l'histoire contemporaine, même lorsqu'il faisait de l'histoire moderne. Or, 56, 57, 57, 58, c'est 3 à 4 ans après le drame de Dien Bien Phu, qui a peut-être satisfait dans sa conclusion certains intellectuels marxistes, mais qui a été un drame pour l'armée française. Les années 56-58, c'est la reprise en main d'un second souffle en Algérie, avec les opérations de ratissage, un peu comme dans les Alpujarras en 1570, dont Jean d'Autriche avait fait un ratissage d'est en ouest à travers les Djebel. Eh bien, le général Chal va faire la même manœuvre. c'est l'opération jumelle suivie de l'opération Pierre Précieuse, la mise en place du commando de chasse et le verrouillage des barrages qui se montra efficace, on peut dire qu'en 1958, nous avions gagné la guerre, mais hélas, nous n'avions pas tenu compte de la lâcheté des hommes politiques. Et si vous voulez, d'autant plus que dans cette affaire d'Algérie, il n'y avait pas seulement un problème d'indépendance. Finalement, les partisans de l'Algérie française, qui sont encore mal connus, qui mériteront peut-être une thèse un jour, les gens que j'ai connus dans l'armée, qui avaient été officiers de tirailleurs, qui avaient été officiers de chasseurs, et j'y reviendrai, Roland Mounier avait été un officier de chasseurs, un brillant capitaine, eh bien, ils pensaient qu'il fallait donner l'autonomie, une large autonomie, le droit de vote, qu'on avait déjà refusé à Sétif, dans ces malheureux incidents de Sétif d'après la libération, eh bien, il fallait donner le droit de vote à ces tirailleurs algériens qui s'étaient bien conduits sur le front d'Italie. Mais j'ai eu des témoignages orales du maréchal Juin à cet effet. Et mais garder une influence française. C'était l'époque aussi, il ne faut pas l'oublier. Et on en a parlé souvent avec le maître qui n'était pas un anti-américaniste, un anti-américain primaire. Où le magazine Time américain lançait des flots d'injures sur la politique coloniale française, aspirant à notre place, vous savez, un peu une mentalité de protogate, comme on dirait de nos jours. Et donc, face à ce problème colonial qui était très chaud, la réaction du maître était finalement une réaction traditionnelle. Alors que la notion d'empire s'écroulait dans les concepts politiques de la France, lui, il restait attaché aux grandes pages roses qui signalaient nos colonies dans les livres de géographie qu'il avait étudiés dans ses classes primaires ou dans ses classes secondaires. Il avait été formé, l'Empire français pour lui était une notion encore vivante. Et c'est à partir de ces idées qu'il va faire son cours. Son cours que je vais voir d'abord sous trois aspects. D'abord, la méthode. Et c'est une méthode qui n'est pas historique au premier abord. Il va utiliser la méthode anthropologique. Et c'est une originalité de sa réflexion. Il dirait qu'il va très bien utiliser l'anthropologie. Vous savez, là encore, on croit que c'est 1968 qui a mis à la mode l'anthropologie et la sociologie. Elle était beaucoup plus vieille que ça. Heureusement, les pères de l'anthropologie, je ne crois pas que le professeur Chauny me démentira, sont Hérodote, mais pour l'époque moderne, sont les jésuites espagnols, qu'évoquera du reste dans son cours, le professeur Mounier. Et deuxièmement, il a insisté sur la bibliographie. Et dans un deuxième temps, je m'interrogerai pour savoir quelle était la bibliographie de Roland Mounier, quel livre il a utilisé, parce qu'il les juge, les livres. Et ses choix ne sont pas innocents, ses choix ne sont pas inconscients. Et puis, si vous voulez, dans une troisième partie, je verrai les résultats, les temps forts de sa pensée sur la colonisation à l'époque moderne. Alors, la méthode d'abord, eh bien, c'est il s'interroge au début de son cours s'il va partir du fait religieux. Il dit, les gens que je dois étudier, il y a des animistes, il y a des fétichistes, il y a des astrobiologues, il y a des confucéens. Et il est tenté, il est hanté par le fait religieux à travers tout ce cours. C'est ce qui m'a frappé. Et hanté comme un théologien. Mais il dit que ce n'est pas facile parce que le phénomène religieux est un phénomène dont il est difficile de mesurer l'intensité. Alors il va partir du du phénomène de civilisation. De civilisation, si vous voulez, comme un ensemble de coutumes placées dans un large rythme chronologique. Lui qui n'aimait pas souvent que l'on parle de la longue durée, j'ai essuyé quelques rebuffades, des sujets fort amicaux, et bien là, il s'est placé dans la longue durée. Je dis la large chronologie pour ne pas le faire bondir. Mais il n'oublie pas. Et c'est ça que l'anthropologie chez lui s'accompagne de la réflexion d'un historien soucieux de précision et soucieux de chronologie. Par exemple, le rôle qu'il donne, après nous avoir parlé des travaux savants du Pervici, à la bulle ex illa civitate, qui met fin au rythme à la barre et au rite chinois sur lesquels je reviendrai. Ensuite, donc, il va classer ces gens selon leur degré d'avance technique. Car Roland Mounier, qui était plutôt un juriste de tempérament, eh bien, va s'occuper de technique et d'histoire des sciences à travers sa vision de la colonisation, ce qui est une originalité dans son œuvre. Alors, comment va-t-il classer les gens? Et je me rappelle à cette époque-là où il y avait un retour de Rousseau, on pensait plutôt aux bons sauvages et aux maudits espagnols, il va leur classer selon les degrés d'avance dans la civilisation. Alors, vous avez les gens de la pierre polie, les Tupi-Guarani, les Algonquins et les Iroquois. Vous avez ensuite les gens de l'âge du fer, ce sont les Africains de race noire qui vont être transposés au Brésil. Ensuite, vous avez les gens de l'âge du cuivre, essentiellement les Aztèques. Puis enfin, les gens de l'âge du bronze, représentés par les Incas, les Chinois, et les Japonais et les Indiens. Enfin, certaines parties de la population indienne. Et alors, il va examiner les rapports entre les civilisations des gens colonisés et des gens qui les colonisent. Et à ce propos, il parle toujours de colonisation, alors qu'à cette époque-là, les gens parlent de colonialisme. Et souvent, à tort et à travers. Je n'ai vu qu'une fois le mot colonialiste, c'est pour dire anticolonialiste, une fois dans toutes les 400 pages qu'il a donné les fascicules. C'est quand il évoque autour de Victoria la discussion à Salamanque pour savoir s'il faut donner la liberté aux Indiens. Il dit en somme, il y avait un parti anticolonialiste, mais avec une pointe là, en disant que ces gens-là n'étaient pas du tout de son côté. Alors, il le présente selon une méthode anthropologique et dialectique à la fois, sa réflexion sur les différents colonisés qu'il rencontre. D'abord, il évoque la civilisation de la population indigène, et avec de façon très concrète. Il y a par exemple sur la manière de s'habiller sur les danses des Tupi Guarani des pages extrêmement savoureuses. Ensuite, il présente l'état des colonisateurs au moment où ils vont rentrer en contact avec les colonisés. En particulier, et cela nous vaudra, j'y reviendrai par la suite, un passage savoureux sur les romans de chevalerie, l'Amadis de Gaulle, qui arrive en Espagne en 1506, et l'esprit d'aventure de ces conquistadors qui franchissent l'Atlantique. Là, il y a deux belles pages qui sont une anthologie, pour moi, dans l'histoire des mentalités. Là aussi, c'est un précurseur, le maître. Il s'en serait défendu, du reste. Et ensuite, il voit les rapports d'acculturation, comme on dirait de nos jours, c'est-à-dire les rapports de contact, d'abord à partir des ecclésiastiques colonisateurs, et ensuite à partir des laïcs colonisateurs. Mais il a débuté, si vous voulez, il a mis en place, avant de faire, de constituer le passé, il a bien analysé les éléments du futur élément, du futur ingrédient chimique. Alors, si vous voulez, maintenant, nous allons nous pencher sur sa bibliographie. Disons qu'il a, il a été regardé partout. C'est un esprit curieux. Et il m'a dit par la suite, du reste, qu'il avait passé beaucoup de temps à la préparation de ce cours. Et ça se voit. Alors, je vais tâcher d'éviter l'énumération, mais disons qu'en gros,
il a mis dans son cours toutes les trouvailles de l'anthropologie qui étaient peu connues des historiens. Et en particulier, il a la jeune école américaine, celle de Bora à Berkeley, eh bien, il est un des premiers à nous l'avoir fait connaître, les travaux de Needham. Mais en même temps, il a fait connaître les travaux des anthropologues européens, et là aussi, j'y reviendrai, les magnifiques travaux de Bernard Maître sur le père Ricci, et plus, c'est plus que le père Ricci, puisque au fond, c'est une étude du problème de la mission face à une autre civilisation. Alors, je vais voir détailler un peu sa bibliographie à partir des classifications qu'il a données. Sur maître esclave au Brésil, sur lequel beaucoup de gens de ma génération ont médité sur les problèmes justement de mélange entre la race noire et la race blanche au Brésil, qui est un mélange qui a réussi. Il a d'autre part, et en particulier ce livre de Gilberto Freire, apportait des précisions grandes sur les fameux tupis guarani. Ensuite, il y a toute une série de livres, je n'ai pas le temps de les citer, mais sur l'anthropologie des guarani, et il a mis en lumière, je voudrais insister cependant, mettre en lumière, sur les lettres du père Nobrega, le jésuite, qui sont une des grandes sources pour connaître le Brésil à cette époque. Et c'est ainsi qu'on s'aperçoit que Roland Mounier lisait assez facilement le portugais et l'espagnol. En particulier, il s'est servi du livre de Fassbinder sur les jésuites, Der Jesuitenstaat au Paraguay, qui était le grand problème de la survivance de ces Indiens qui mouraient au contact des Européens, non pas tellement par les mauvais traitements, que surtout par la maladie, parce qu'il y a eu deux types de virus qui sont rencontrés, et dans certains cas, les virus européens ont été plus forts que les virus indigènes, je dis dans certains cas. Mais il y aura des correctifs aussi là-dessus. Alors, sur les Iroquois, il fera connaître le grand travail de Marcel Giraud sur le métis canadien qui était paru en 1945 et qui lui aussi avait été un peu laissé dans l'ombre parce que à cette époque, disons, les gens qui travaillaient sur l'histoire coloniale ou l'histoire étrangère étaient quand même, je parle dans mon université de province, je ne parle pas des Lumières parisiennes, mais disons que c'était laissé dans l'ombre. À Caen, on s'occupait de Louis XIV, de Guillaume le Conquérant, et plus encore en Normandie qu'en Angleterre, mais franchir le Channel, c'était déjà un acte héroïque. Bon, donc, il y a toute une étude sur l'Iroquois, la jeune école anthropologique canadienne. Dans l'article que je remettrai, je noterai les bouquins qu'il cite. Ensuite, il s'est intéressé beaucoup au problème de l'évangélisation dans la Nouvelle-France, en en analysant les travaux, par exemple, de Kennedy, de Kennedy, non pas le président, sur Jesuits on Savages in the New French, qui est devenu un classique, et qui était de 1956. C'est-à-dire qu'il y a une nombreuse bibliographie qui date des deux années avant de faire le cours, plus quelques trésors qu'il a été cherché, beaucoup plus là, mais vous savez comme moi qu'il y a des livres qui ne vieillissent pas. Alors, sur les Mayas, il s'est servi essentiellement de l'œuvre de Morley, de l'ordre américain, qui était paru en 1946 et qui, je crois, reste un grand classique. Sur l'âge du cuivre, c'est essentiellement les Aztèques, il a fait connaître l'œuvre de Vaillant, qui était parue chez Payot en 1951, et surtout les grands travaux de Jacques Soustelle, que ce soit sa thèse sur la famille Otomi, ou que ce soit sa vie quotidienne, qui pour moi, dans la collection des vies quotidiennes, c'est à la hauteur de celle de Carcopino sur l'Empire romain. Donc, il a aussi utilisé des œuvres américaines, les œuvres de Bora, et de ses élèves de Berkeley, toute une pléiade d'Américains savants. Ce qui est intéressant, excusez-moi, j'étais déjà à l'âge du cuivre, c'est ce qu'il donne sur l'âge du fer. Et là, on s'aperçoit qu'il y avait une pauvreté de l'histoire africaine noire à cette époque-là qui s'est enrichie. Parce que là, on voit le maître qui ne cachait pas quand il peinait. Il le dit lui-même, la bibliographie n'est pas abondante à part, si vous voulez, il s'est servi beaucoup de Frédéric Moreau, le Portugal et l'Atlantique, qui avait quand même fait une synthèse des travaux africains, et de Richard Conesqueux, qui avait publié un certain nombre de pièces, de témoignages espagnols dans la Codoine, mais pour l'Amérique latine, non pas la Codoine péninsulaire, mais c'est-à-dire la collection de documents inédits. Ensuite, j'en arrive à l'âge du bronze. Sur les Incas, il fait connaître les travaux de Raphaël Kunster. Et le Handbook of South American Indians, publié par ce grand fonds, l'institution Smithsonian, qui a l'US, et il a fait connaître les travaux. Ensuite, j'en arrive à l'âge du bronze. Et alors, pour l'âge du bronze, il s'est servi pour les relations avec l'Inde et avec la Chine, essentiellement des travaux du père Bernard Maître et de ses disciples. J'ai eu, durant cette année-là, vous savez, l'année d'agrégation, on n'a pas beaucoup eu le temps de lire, mais un de mes amis, jésuite à Caen, m'a procuré la vie de Ricci, et j'ai lu ça malgré les angoisses de l'agrégation, et ça se lit comme un véritable roman. Et à partir de ses études sur Ricci, il a aussi poussé l'analyse plus loin. Il y a une échappée du maître sur le XVIIIe siècle, sur le contact des Européens avec la morale naturelle, qui explique en partie l'œuvre de Leibniz, et il y a tout un passage extraordinaire sur Leibniz, la morale naturelle, c'est-à-dire une morale qui devient laïque et qui se coupe de ses racines religieuses. Comme je vous disais que le maître était angoissé par le problème religieux, on le voit très bien ici. Et alors il cite un certain nombre de revues spécialisées dans l'histoire des sciences sur les mathématiques, l'astronomie et la philosophie à l'époque de Ricci et plus tard au début du XVIIIe siècle. Alors, quels sont les résultats de cette réflexion de Roland Mounier sur la colonisation, sa vision de la colonisation à l'époque moderne? Eh bien, d'abord, si vous voulez, il affirme la supériorité de la civilisation européenne. Et abruptement, hein, vous savez, quand le maître se mettait comme ceci et qu'il affirmait, alors là c'était le capitaine de chasseur en train de partir à l'assaut. Il dit, les Européens ont la raison, le rationalisme, et ils ont le syllogisme. Il y a tout un passage humoristique sur l'arme du syllogisme qui est une supériorité sur les gens, les animistes, les fétichistes et les astrobiologues. Donc, supériorité de la civilisation européenne. Goût de l'aventure. Goût de l'aventure, j'ai déjà évoqué, il a montré comment, dans cette exploration des continents inconnus au début du XVIe siècle, après les quatre grands voyages de Colomb, eh bien, a joué le vieil esprit médiéval de chevalerie, du goût de l'aventure, comme il dit. Bon, ils sont arrivés dans les tropiques, ils ont vu toute une flore et une faune luxuriante, eh bien, ils ont pensé à certains passages d'Amadis des Gaules, où il y avait des couleurs, où il y avait des bijoux partout. Bon. Mais il n'oublie pas, il le dit, que le phénomène de colonisation est d'abord un phénomène de croisade. Et là, je ne l'avais pas remarqué, parce que je n'étais pas parisien à l'époque. Il cite dans un paragraphe l'œuvre de la thèse que Alphonse Dupron venait de soutenir sur l'idée de croisade au XVIe siècle. Et je ne l'avais pas remarqué à l'époque, je m'en excuse, c'était mon ignorance, mais quand j'ai relu l'autre jour, je me suis dit, bon, on est en terrain connu. Et il fait l'éloge d'Alphonse Dupron. Et la croisade, dans l'idée de colonisation, la croisade a comme corollaire l'évangélisation. Et sur l'évangélisation, il va évoquer le grand débat qui s'est déroulé chez les Espagnols, notamment à l'université de Salamanque, et qui va aboutir aux lois indiennes en 1550, 1551 et 1552. Il y a plusieurs grands codes. Mais déjà la reine Isabelle avait averti ses gouverneurs qu'il fallait se méfier des encomiendas de donner systématiquement les Indiens aux des conquistadors qui étaient un peu plutôt rudes dans le maniement des hommes. Bon. Et il y a tout un débat qui se situe d'abord sur le problème du pouvoir. Le roi a-t-il le droit d'être le roi des indigènes? Et réponse de Salamanque, le roi le peut, mais il est administrateur au nom de Dieu des indigènes. Et là, c'est très net. Ça, par exemple, dans Victoria. Et il faut dire que là, à propos de ce problème de la colonisation, le droit moderne international est né, et nous le devons encore, aux théologiens espagnols. Je suis un peu chauvin quand il s'agit de l'Espagne, mais enfin, bon. De même que cette réflexion théologique sur le pouvoir du roi va s'accompagner aussi du problème de l'économie. De l'économie, et dans un paragraphe, il cite les travaux particuliers sur la cochenille, il cite la cochenille d'un jeune historien de cette époque, c'est de Pierre Chaunu. Il cite abondamment, il y a tout le problème, a-t-on le droit de prendre les biens, autrement dit, est-ce que le commerce colonial est légitime? Et il y a eu débat, qu'on ne me dise pas que les Espagnols sont des obscurantistes là-dessus. Et puis finalement, il y a un autre grand débat aussi. Est-ce que les Indiens doivent être libres? Est-ce qu'on a le droit de servir les Indiens? Et si des gens comme Rines de Sepúlveda, qui était pourtant plutôt progressiste quand il s'agissait de l'Inquisition, sont pour l'asservissement des Indiens, la majorité des gens de Salamanque qui suivent Victoria va être contre l'asservissement. Bien entendu, le vœu sera longtemps pieux, même jusqu'à nos jours. Regardez les révoltes de Chiapas. Hein, il y a un asservissement à l'oreille tendue, dont la presse française, du reste, ne parle pas. Ça l'intéresse pas. Je passe. Donc il y a tout un problème religieux, un problème humain, et puis aussi, il y a ce qu'il a appelé, il a insisté sur l'acculturation. Sur l'acculturation qui se fait par l'imprégnation des cultures de part et d'autre. Et là, il a analysé longtemps les livres de Las Casas, non seulement l'histoire des Indes, mais le pamphlet sur la destruction des Indes, qui paraît aux alentours de 1550, et il l'analyse longuement. Mais on voit très bien qu'il agace Roland Mounier. Il n'était pas, c'était pas un partisan de Las Casas, qui avait été un colonisateur au début. Jusqu'en 1514, il avait été en comandero et il avait eu ses esclaves. Et puis, il y a eu des lumières en 1514 en préparant, soi-disant, un sermon. Et à partir de ce problème, à partir de Las Casas, Roland Mounier s'étend sur le problème de la colonisation et au fond le bien fondé de la colonisation, parce qu'il y a des cultures qui vont se connaître. Et c'est vrai qu'on a peut-être donné les chevaux et les bovins aux gens de l'Amérique latine, mais ils nous ont donné un tas de fruits. Je pense par exemple aux terpinambours qu'on appelait les artichauts de Jérusalem au XVIIe siècle. Je ne peux pas, étant donné le temps, je ne peux pas m'étendre, mais cela est important. Et puis aussi, il y a l'acculturation humaine. Et disons que le capitaine de chasseurs revient à la surface et sur un ton mi-goguenard, un peu grivois, il traite des rapports des Indiennes, des colonisés eux, avec les colonisateurs. Ben, il faut bien dire que les colonisateurs sont partis souvent sans femmes. Et qu'il y a le problème du métis. Et qu'il y a... Roland Mounier s'est penché pour tous les peuples sur le problème du métissage. Et il faut bien dire, en tout cas, ce qu'il y a un métissage qui a réussi, c'est le métissage au Brésil entre les Noirs et les Blancs. Il a été beaucoup plus difficile avec les peuples asiatiques et à peu près nul avec les Japonais. Mais chez les Aztèques et chez les Incas, le métissage a été parfaitement réussi. Et on a entendu en 1992, on a entendu, vous m'excuserez, des imbécilités, pour être poli, sur le massacre des Indiens. Ben non, à l'heure actuelle, j'ai des collègues d'Amérique latine, fort éminents, qui se sentent de la race blanche, mais enfin qui sont un peu simiesques quand on regarde le visage. Mais ce sont de charmants collègues. Ensuite, donc, voilà tous les problèmes que Roland Mounier qui pose. Et pour terminer, je me permets de vous lire sa conclusion. Elle n'est pas longue, j'ai encore le temps.
3 minutes.
Oui, c'est tout. Je veux lire parce que, finalement, si nous jetons un coup d'œil sur le travail que nous avons fait ensemble, et ça c'est une réflexion du maître quand même qui était très proche de ses étudiants et qui considérait qu'un cours c'était un travail en commun. Sur le travail que nous avons fait ensemble dans ces deux dernières années, nous voyons que la civilisation européenne ne peut intégrer les civilisations avec lesquelles la colonisation le met en contact que si les civilisations indigènes atteignent un niveau déterminé. Nous avons vu l'an dernier que les peuples pêcheurs et chasseurs au stade de l'animisme et à l'âge de la pierre polie sont restés inassimilables et ont été détruits, à moins qu'ils n'aient survécu pour un temps en réduction ou jusqu'à nos jours enquistés dans la civilisation européenne comme les Micmacs. Nous en avons analysé l'an dernier quelques raisons. Les peuples cultivateurs sédentaires qui ont atteint le stade mental de l'astrobiologie au contraire, ont pu être intégrés à la civilisation européenne, et ceci d'autant mieux qu'ils ont atteint un niveau plus élevé dans la technique et dans l'organisation politique et sociale, de mieux en mieux quand on passe des Mayas de l'âge de pierre poli aux Otomis, aux Mexicas de l'âge du cuivre, aux Quichua de l'âge du bronze, aux Dahoméens de l'âge du fer. Les Africains ont même pu constituer, avec les Portugais, une civilisation mixte européo-africaine à dominante européenne. Quand nous sommes arrivés cette année aux grandes civilisations de l'Asie des Moussons, hindous, chinois, japonaises, nous avons dû constater à nouveau l'échec de la civilisation européenne pour assimiler ou intégrer les peuples de ces civilisations asiatiques. Sans doute est-ce parce que ces civilisations de l'Asie des Moussons, tout en appartenant encore au stade mental de l'astrobiologie, en sont arrivées à l'échelon supérieur de ce stade et, dépassant les différentes formes du polythéisme, ont pu élaborer des philosophies monistes radicalement différentes de la dualité pensée européenne. Ces philosophies monistes donnaient à ces peuples une puissance d'action sur la nature et une capacité d'organisation sociale et administrative inférieure à celle que le rationalisme qualitatif, le syllogisme et la géométrie des solides donnaient aux Européens. Alors, si vous voulez, il me reste à conclure maintenant. Je crois qu'il a eu un regard aigu, une méditation aiguë sur la colonisation à l'époque moderne, mais qui vaut même pour la décolonisation à l'heure actuelle, et que finalement il y a la vision d'un homme curieux des autres, mais qui garde souvent la fermeté souple, voire l'intransigeance du catholique orthodoxe.
Avant d'ouvrir le débat et vos réflexions sur la communication riche et extrêmement vivante de Jean-Paul Le Flem, je crois qu'il y a une différence simple entre nous, c'est que tu étais à Caen, j'étais à Paris, et j'ai vu le maître opérant et constituant son cours, ce qui ne me donne aucune supériorité, mais simplement le fait que nous avions l'impression, il y en a probablement ici qui étaient dans mon cas, qu'il nous procurait une certaine libération par rapport au manichéisme réductionniste dont j'ai parlé en commençant, n'est-ce pas ? Il nous offrait une autre façon de voir les choses que le plan thèse, antithèse, synthèse d'un certain nombre de sectateurs de Marx qui existaient à l'époque et qui étaient très nombreux, je ne dis pas d'ailleurs à la Sorbonne, mais dans d'autres instituts. Il faudrait étudier très probablement aussi l'influence indirecte que l'ennemi exerce toujours, ou disons l'adversaire, et là on peut presque dire l'ennemi, n'est-ce pas, sur celui qu'il combat. Et il n'y a pas de pugilat de ce type sans naturellement laisser des traces. Et il est très certain que Roland Mounier, je pense, a été quand même influencé en voulant donner une interprétation peut-être parfois extrêmement schématique, trop peut-être schématique, n'est-ce pas ? Si nous admirons le maître, comme tu dis, nous ne sommes pas pour ça des sectateurs. Et nous devons bien reconnaître que là, il y avait peut-être un souci typologique qui frisait parfois des choses qui pouvaient sembler un peu artificielles. Mais enfin, pour nous, c'était un autre moyen de nous libérer. J'ai été, moi, élevé dans un séminaire marxiste, et ça a quand même donné, au moment de l'agrégation, l'agrégation comme libération, c'est quand même assez rare, n'est-ce pas ? C'est plutôt un genre d'esclavage des Indiens d'Amérique. Et je crois aussi, la deuxième chose qui m'a frappé dans ton exposé, c'est que ce que tu as dit, c'est l'illustration, l'exaltation de deux choses qui sont très controversées, mais qui tiennent toujours d'ailleurs la route, n'est-ce pas, pour parler vulgairement, c'est l'agrégation et la thèse de doctorat d'État. Je crois que cette gymnastique extrêmement ascétique pour les étudiants, qui étaient ceux de Roland Mounier, mais pour le maître lui-même, n'est-ce pas ? Je me souviens de visions de travail de Roland Mounier à la Bibliothèque nationale, où il s'enfermait à l'ouverture jusque vers 15-16 heures, caché derrière des piles d'ouvrages, sans jamais lever les yeux pratiquement, peut-être une fois ou deux en 4 ou 5 heures, n'est-ce pas, il levait peut-être les yeux quand même, mais généralement jamais. Et il en sortait avec les chapitres dont tu as parlé. Et il y avait là une vision analytique et synthétique tout à la fois, une grille d'analyse des phénomènes diversifiée. Tu as insisté sur la classification technicienne qu'il avait adoptée. Il y avait une classification également religieuse très importante dans le passage que tu as cité. N'est-ce pas ? On voit bien l'importance du phénomène religieux pour toutes ces civilisations. Une classification par les structures familiales également et les structures de pouvoir, qui fait qu'il avait une analyse au moins avec 5 ou 6 paramètres qu'il appliquait à toutes ces civilisations devant des étudiants qui étaient manifestement dans un autre domaine que celui dont ils avaient l'habitude, dans lequel ils étaient d'habitude avec d'autres professeurs peut-être éminents, mais qui étaient des érudits avec toutes les qualités de l'érudition, ça ne fait pas de doute, mais ils n'avaient pas ces grandes analyses spectrales auxquelles se livrait Roland Mounier. Est-ce que nous avons des interventions sur cet exposé très nourri de Jean-Paul Le Flem, où on voit bien les composantes du travail de Roland Mounier? Oui, François Crouzet. Vous l'avez dit, je ne voulais pas le prononcer, mais vous l'avez heureusement dit. Merci Pierre Chaudu.
Thank you.
si vous permettez, il me vient à l'esprit une boutade de Roland Mounier qui m'a dit en 68, on parlait justement de l'indépendance des pays d'Afrique, il m'a dit, ils sont passés du caporal Banania à Mamadou démocrate, et il croit que c'est un progrès.
Sur cette phrase off records, je pense, pour vos actes. Bien, nous allons, avec cette métaphore militaire, passer naturellement à l'exposé d'André Corvisier, que j'invite à venir ici au bureau. Il va nous parler de Roland Mounier.